Merci d'être présent pour cette troisième édition du Café des Sciences. Je remercie aussi François Bourguignon d'être venu jusqu'à l'École des Ponts pour nous parler de l'inégalité ou des inégalités. Avant de faire une brève introduction de François Bourguignon, juste pour vous rappeler que le prochain opus du Café des Sciences aura lieu le 15 mai. Ce sera une chercheuse du CNRS en éthologie, Audrey Dussutour, qui viendra nous parler des fourmis, fourmis, blob et intelligence animale. Voilà. Juste quelques mots brièvement sur François Bourguignon. Donc, François Bourguignon, c'est avant tout un chercheur en économie. Il a fondé dans les années 80 le Delta, qui était un centre de recherche. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure. François Bourguignon, c'est aussi une personne qui lie le savoir et l'action. Donc, il a travaillé pour ça à la Banque mondiale. Il était à l'époque, au début des années 2000, chef économiste et vice-president. Et donc à la Banque mondiale, il a notamment créé une unité qui s'appelle DIME, Development Impact Evaluation, dont le but était de regarder dans différents contextes une même politique publique et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer à la fois pour les politiques publiques et donc pour l'action. Donc c'est bien cette interaction entre savoir et action qui est mise en valeur dans la création de cette unité. Et puis enfin, François Bourguignon a une petite histoire en commun avec l'École des Ponts, qui s'appelle l'École d'économie de Paris, qu'il a dirigée entre 2007 et 2013. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'École d'économie de Paris est la résultante d'une fusion de plusieurs laboratoires d'économie en Ile-de-France, dont celui de l'École des Ponts, qui a fusionné avec le Delta à un moment pour donner Paris Jourdain Sciences Économiques, et l'association de Paris Jourdain Sciences Économiques avec le Centre d'économie de la Sorbonne, ça a donné l'École d'économie de Paris. Donc les Ponts sont membres fondateurs de l'École d'économie de Paris, et donc c'est l'histoire en commun que nous avons. Aussi, quelque chose qui me tient à cœur, et c'est dans le cadre dans lequel j'ai rencontré François Bourguignon, c'est peut-être aussi un fil rouge dans sa carrière, c'est le renforcement des capacités des chercheurs dans les pays développés et dans les pays en développement. Donc, il est actuellement président du conseil d'administration d'une organisation internationale qui est basée à New Delhi, le Global Development Network, et qui donc appuie la recherche en sciences sociales et en économie dans les pays en développement. C'est l'organisation pour laquelle j'ai travaillé avant. Donc, je vous laisse la parole. Et puis bonne conférence à vous tous.
Merci, Pierre. Voilà, donc, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous, surtout de m'adresser à ceux qui feront le monde de demain. Et je dois dire que là où j'en suis, c'est un petit peu ceux qui ont regardé et travailler dans le monde d'hier et d'aujourd'hui qui s'adresse au monde de ceux qui feront le monde de demain. Je crois que les perspectives de ce monde de demain sont assez extraordinaires et je crois que vous êtes très bien équipés pour l'aborder. En même temps, c'est un monde qui a des aspects qui sont relativement inquiétants. Et parmi les grands sujets d'inquiétude, je pense qu'évidemment, il faut citer la question de l'environnement. C'est probablement la première préoccupation. Mais il y en a d'autres. Et celle dont je vais parler aujourd'hui est devenue, depuis quelques années, quelque chose qui est important, qui est ressenti dans la plupart des populations, dans la plupart des cercles de décision, comme quelque chose qui vient avec l'évolution des technologies, qui vient avec la mondialisation, et c'est la question des inégalités. Alors pour situer ou regarder l'importance de ce sujet aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de reprendre l'analyse qui a été faite par des médias, par des politistes, par des sociologues, par des économistes aussi, de quelques surprises qui ont eu lieu ces dernières années. Surprises dans le sens où, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait pas imaginé que de tels événements surviennent. Et ce que j'ai en tête, c'est évidemment des événements tels que le Brexit, le référendum sur le Brexit en Angleterre, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, plus récemment évidemment l'élection de Bolsonaro au Brésil, les élections italiennes avec cette espèce de d'organisme bicéphale gauche-droite entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Et puis aussi la pression populiste qui existe dans beaucoup de pays, y compris en France, où finalement, lors de la dernière élection présidentielle, les populistes de droite et de gauche, finalement, n'étaient pas très très loin de faire 50% de l'électorat. Et la tentation était très très grande, dans beaucoup d'analyses, de relier ces événements à l'inégalité. Et il est évident que dans le cas des États-Unis, c'est extraordinairement tentant. On est dans un pays, vous le verrez tout à l'heure, dans lequel l'inégalité a cru de façon importante et continue durant les 30, presque 40 dernières années, sans aucune interruption. Et dans lequel on voit effectivement ces énormes fortunes, ces milliardaires, qui alimente les nouvelles, qu'on voit au premier plan, même au premier plan politique. Et donc l'idée de se dire, quelque part, à un moment ou à un autre, la population va se révolter contre les élites et vont voter pour des gens qui sont contre les élites. Alors bizarrement, Trump, milliardaire, effectivement a fait campagne contre les élites de Washington, etc., pour finalement en arriver à rejoindre ces élites. Mais cette idée que les inégalités sont un peu derrière tous ces phénomènes est une idée importante. Et en fait, dans le livre que j'ai écrit il y a quelques années et qui porte ce titre, « La mondialisation de l'inégalité », c'était une hypothèse que je faisais à un moment donné en disant « Mais finalement, si l'inégalité croît trop, atteint des niveaux trop élevés, à ce moment-là, voilà le genre de risque que l'on court. Et j'allais un tout petit peu plus loin en disant ces risques sont tels que des gouvernements populistes vont prendre des mesures économiques qui seront au détriment de l'ensemble des sociétés. Et c'est ça qui est relativement grave et c'est la raison pour laquelle ce thème des inégalités est aussi important aujourd'hui. Alors c'est vrai au niveau national, j'ai cité un certain nombre de pays que l'on a tous en tête, et on voit que dans ces pays-là, il n'y a pas uniquement des pays développés. Le Brésil est une économie émergente dans laquelle, là encore, il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé un gouvernement populiste et presque paramilitaire gagner les élections. Mais c'est aussi une question qui se pose au niveau mondial. Et peut-être depuis plus longtemps, il y a un souci de la part d'une partie de l'opinion, en particulier des organisations non gouvernementales, de regarder l'évolution de la pauvreté dans le monde et l'évolution des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Et on a cette espèce de refrain qui vient très souvent dans les discussions sur la mondialisation, qui consiste à dire « mais la mondialisation fait que les pays pauvres deviennent plus pauvres et les pays riches deviennent toujours plus riches, et donc les inégalités ne font que croître ». Alors on verra ce qu'il en est effectivement. Mais la réflexion que je voudrais faire devant vous aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que cette question des inégalités, c'est aussi simple que ça ? Est-ce que les inégalités augmentent et à un moment donné, il y a des choses qui se passent qui sont qui ont un impact négatif sur les sociétés et sur les économies. À l'époque où j'étais vice-président et chief économiste de la Banque mondiale, je visitais beaucoup de pays, j'allais très souvent en Chine et je disais aux autorités chinoises, mais faites attention, les inégalités augmentent de façon considérable en même temps que l'économie se développe. Et il y a un moment où cette inégalité va avoir des conséquences négatives. Et les autorités chinoises me disaient « Ah ben oui, on vous comprend très bien, vous avez tout à fait raison. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ça va devenir grave ?» Et est-ce que vous pouvez nous prévenir à ce moment-là? Malheureusement, on n'en est pas à ce niveau de précision. Mais ça montre aussi qu'il y a une conscience de ça dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Et de quel type d'inégalité on parle? Est-ce que vraiment ce sont les inégalités de revenus, de richesses, de salaires, d'opportunités? De quoi on parle vraiment? Et puis les inégalités entre qui et qui? Est-ce que vraiment le sort des milliardaires est vraiment quelque chose d'important? Le sort des chefs d'entreprise, des PDG ou des stars de rock ou de football sont vraiment les références les plus importantes? Qu'est-ce qu'il doit en être? Donc voilà ce dont je vais parler. Alors je vais couper organiser ma présentation en quatre parties. Premièrement, je voudrais regarder quelques chiffres. Parce qu'il se trouve que cette idée que les inégalités montent inexorablement dans le monde, ça n'est même pas ça aussi, ça n'est même pas si simple que ça. Donc on va regarder ce qu'il en est. Deuxièmement, je voudrais regarder les principales causes économiques pour des changements dans l'inégalité, ou des changements dans la distribution des niveaux de vie, des revenus, etc. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais dire quelques mots sur les coûts d'une inégalité excessive, sans qu'il soit possible, comme mon exemple chinois l'a montré tout à l'heure, de dire vraiment à quel niveau est-ce qu'on peut considérer que l'inégalité devient excessive. Et puis finalement, je vais conclure en disant, mais quelles sont les inégalités qu'on devrait regarder? Est-ce que vraiment, on n'est pas en train, dans ce débat sur le rôle des inégalités dans le monde, en train de chercher la clé qu'on a perdue sous le lampadaire, alors qu'on sait très bien qu'on l'a, parce qu'il y a de la lumière sous le lampadaire, alors qu'on sait très bien qu'on a perdu la clé ailleurs. Donc voilà le plan de mon intervention. Donc premièrement, quelques faits sur l'augmentation, sur l'évolution des inégalités dans les pays d'un côté, dans le monde de l'autre côté. Quel est l'indicateur d'inégalité qu'on va retenir? L'indicateur d'inégalité, on va se référer au niveau de vie. Et le niveau de vie, on le mesure assez facilement, en tout cas dans les pays avancés, en regardant le revenu disponible des ménages. Donc revenu disponible, une fois qu'on a enlevé les impôts que payent les ménages et que l'on a rajouté éventuellement les transferts auxquels les ménages ont droit parce que ils ont des enfants, parce qu'ils sont en dessous d'un certain seuil de revenus, etc., etc., ce qu'on appelle la redistribution des revenus. Et ce revenu disponible des ménages, on le divise de façon assez arbitraire par le nombre de gens dans le ménage, se disant que finalement, une famille de 5 personnes a besoin quand même de beaucoup plus qu'un célibataire. Et puis on va un tout petit peu plus loin, on définit ce qu'on appelle des unités de consommation en disant oui mais les enfants ont moins de besoins que les adultes, et puis deux adultes vivant ensemble, il y a des économies d'échelle, donc deux adultes vivant ensemble n'ont pas besoin du même revenu pour avoir un certain niveau de vie que deux célibataires. Donc c'est ce qu'on appelle le revenu disponible par unité de consommation. Et c'est ça la mesure qui est la plus utilisée dans le débat ou dans la discussion sur les politiques de distribution de revenus. L'OCDE en particulier publie maintenant de façon tout à fait régulière des chiffres sur l'évolution de cette inégalité-là. Il y a d'autres façons de regarder les inégalités. Ces chiffres de revenus disponibles, la plupart du temps, viennent d'enquêtes qui sont faites auprès des ménages. Et le problème de ces enquêtes, c'est que généralement, elles ne vont pas, les échantillons sont trop petits pour vraiment cerner la partie haute de la distribution. Vous pouvez imaginer qu'il y aura relativement peu de milliardaires dans un échantillon de ménages au centième ou de la population, ou même au millième de la population. Dans ces conditions-là, ces enquêtes ont tendance à sous-estimer les très hauts revenus. Et une autre façon d'essayer de percevoir les hauts revenus, c'est d'utiliser des données fiscales, les déclarations de revenus des gens, qui sont des données administratives. Cette fois-ci, on n'a plus de sondage à faire. On peut regarder directement les données qui viennent des directions des impôts. Et là, on a le nombre de gens au-dessus d'un certain seuil de revenus, combien ils ont de revenus, combien ils payent d'impôts, etc. Et à partir de ces données fiscales, on peut essayer de regarder ce qui se passe sur le haut de la distribution. Et donc ça donne éventuellement une autre perspective sur l'évolution de la distribution des revenus. Et les deux perspectives sont en fait largement complémentaires. La première s'intéresse à des revenus disponibles. La deuxième s'intéresse à des revenus avant impôts et avant transfert. Et dans ces conditions-là, les deux ne sont pas complètement comparables, puisque la redistribution peut modifier les choses. Ayant dit ça, voilà mon premier ensemble de graphiques. Il s'agit de l'évolution de l'inégalité des revenus disponibles, mesurée par le coefficient de Gini, qui est le coefficient qui est le plus utilisé pour décrire l'inégalité, qui a un coefficient qui décrit l'ensemble des inégalités, donc qui résume une distribution en un chiffre unique. Et donc, évidemment, on perd beaucoup d'informations en faisant ça, mais c'est la façon dont on procède le plus fréquemment. Et vous avez quatre graphiques sur ce slide, parce que j'essaie de mettre en évidence le fait que l'évolution des inégalités entre 85 et 2015 dans des pays avancés, et dans le graphique du bas à droite, ce sont des pays émergents, les évolutions sont relativement hétérogènes. Dans le graphique du haut à gauche, là j'ai même ça, si je peux même l'utiliser, voilà. Sur ce graphique-là, vous voyez l'évolution dans trois ou quatre pays dans lesquels on a un vrai trend ascendant l'inégalité. C'est peut-être un peu moins vrai pour le deuxième pays en partant du haut, qui est le Japon, où il y a effectivement une augmentation pendant un certain temps et puis ça semble se stabiliser. Mais la courbe du haut, ce sont les États-Unis, avec un très fort degré d'inégalité. Et vous voyez qu'il y a vraiment un trend ascendant qui est maintenant sur une période de 30 ans. Et si on remontait à 75, on verrait que le trend vraiment commence à peu près au milieu des années 70. Et tout en bas, et de façon assez surprenante, on voit deux pays dans lesquels l'inégalité est beaucoup, beaucoup plus faible. Et si vous comparez au graphique de droite, vous voyez que c'est des pays dans lesquels l'inégalité est beaucoup plus faible qu'ailleurs dans les économies avancées. Il s'agit de deux pays nordiques, le Danemark et la Suède. Et vous voyez que dans ces pays qui sont réputés pour être des pays très égalitaires, dans lesquels l'équité est un souci constant des dirigeants, on voit que l'inégalité augmente, et elle augmente de façon à peu près continue à partir de la moitié des années 90. À droite, sur ce graphique-là, on a d'autres pays avancés, la plupart d'entre eux européens, quoique doit y avoir le Canada dedans. Et ce qui caractérise ces pays, c'est la chose suivante, c'est que, premièrement, quand on compare 85 et 2015, on voit que l'inégalité dans la plupart de ces pays est plus élevée en 2015 qu'en 85. Et ça, c'est un peu ce qui a fait les gros titres des journaux ou des rapports de l'OCDE ou d'un certain nombre d'organismes internationaux, de dire « regardez, l'inégalité augmente ». Mais quand vous regardez le détail, vous vous rendez compte que l'augmentation des inégalités est très localisée à une partie du temps. Et la plupart du temps, cette augmentation des inégalités a lieu dans les années 90. La courbe du haut rose correspond au Royaume-Uni. Et vous voyez une très grande augmentation des inégalités en tout début de période, 85-90. Ben, on n'est pas très étonné d'apprendre que à cette époque-là, Madame Thatcher était la première ministre du Royaume-Uni et que sa politique a été de faire des coupes sombres dans l'État-providence en Angleterre. Et on voit bien le résultat de ça. Et après, on a quelque chose qui est relativement plan. Et puis, c'est la même chose pour d'autres. Quelque part, on doit voir l'Italie, qui est aussi, je crois que c'est en partant du haut, la deuxième courbe. Et on a la même chose. On voit une augmentation des inégalités dans les années 90, au moment où l'Italie abandonne l'indexation systématique des salaires sur l'inflation et au moment où la négociation collective tend à disparaître en Italie, la négociation sur les salaires devenant quelque chose qui est propre à chaque entreprise. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on a effectivement une augmentation des inégalités, mais qui est localisée dans le temps et dans certains cas qu'on peut directement attribuer à des réformes de la politique. Dans le cas des États-Unis, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des réformes importantes. En 1986, il y a la grande réforme fiscale qui a été décidée sous l'administration Reagan, qui a effectivement contribué à une augmentation des inégalités, mais il y a beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est vraiment le grand événement sur l'ensemble de la période, et malgré tout, l'inégalité augmente. Le graphique qui est en bas à gauche, celui-ci, correspond à deux pays. L'un est la France, elle est en bleu, et l'autre, ce sont les Pays-Bas. Et vous avez donc deux pays dans lesquels, finalement, sur l'ensemble de la période, l'inégalité est relativement plate. Et en particulier, vous voyez, dans le cas de la France, qu'il y a une sorte de petit blip qui a lieu au moment de la crise, après 2008. Il y a effectivement une augmentation des inégalités qui a lieu juste après. Il y a ensuite le gouvernement, l'administration Hollande, qui apparaît, qui en 2012 prend des réformes fiscales importantes et qui rétablit l'inégalité là où elle était auparavant. Donc on voit que sur l'ensemble de la période, on ne peut pas dire que les inégalités aient augmenté, ni de façon continue, ni même de façon substantielle quand on compare 85 à 2015. Et l'absence de variation est encore plus forte dans le cas des Pays-Bas, où on a une courbe qui est pratiquement plate. Il y a évidemment une sorte de un problème de précision statistique sur ce fameux coefficient de Gini. On considère qu'une variation inférieure à 1,5 point est peu significative, et les variations qui sont là sont à l'intérieur de cet intervalle. Donc, ça signifie qu'il y a aussi des pays avancés dans lequel l'inégalité, telle qu'elle est mesurée là. On reviendra par la suite sur le fait qu'on peut mesurer l'inégalité d'une autre façon. L'inégalité telle qu'elle est mesurée là, l'inégalité des niveaux de vie n'a pas changé. Et puis le dernier graphique, ce sont des économies émergentes, où là, on a une extraordinaire diversité. Tout en haut, la courbe orange, c'est l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus inégalitaire du monde, dans lequel bon, on voit que il y a des petites variations, mais l'inégalité est très élevée et reste très élevée. Juste en dessous, en bleu foncé, on a le Brésil, qui était un pays très inégalitaire, presque au même niveau que l'Afrique du Sud. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a une diminution extraordinaire, presque historique, de l'inégalité au Brésil. Et de ce point de vue-là, on est un petit peu frappé de voir que ces problèmes politiques et l'élection d'un gouvernement très populiste apparaît alors qu'il y a un progrès social qui est complètement évident. Le pays en bleu clair, c'est la Colombie. On voit aussi que, et c'est vrai dans toute l'Amérique latine, qu'il y a une diminution de l'inégalité qui a lieu dans les années 2000. La courbe en vert, c'est la Russie. On a une baisse de l'inégalité juste après la période de transition de l'économie socialiste à l'économie de marché, ce qui est quelque chose d'à peu près raisonnable. Puis par la suite, c'est à peu près plat. La courbe qui monte juste au-dessus, c'est la Chine. Et là aussi, on a quelque chose de vraiment intéressant, qui est que l'inégalité augmente de façon continue à partir de 85 jusqu'à à peu près 2000-2005, et elle se stabilise complètement à ce niveau-là. Que l'inégalité est augmentée durant la transition, là encore, socialiste, marché, c'est relativement évident, que le développement fulgurant, économique fulgurant de la Chine ait généré de l'inégalité. On y reviendra par la suite. Et puis les deux courbes du bas sont l'Inde et l'Indonésie, dans lesquelles on voit qu'il y a une augmentation des inégalités, un petit peu plus faible, mais il semble qu'elles soient en train de s'accélérer. Donc voilà l'état des choses. Alors, on pourrait parler de l'Afrique. Les données sont généralement pas très bonnes et c'est difficile de faire de la comparaison dans le temps. On pourrait parler d'autres pays asiatiques qui sont finalement d'une façon ou d'une autre similaires soit à la Chine, ce serait le cas du Vietnam, soit l'Inde et l'Indonésie. Mais voilà une autre définition de l'inégalité, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, celle de l'inégalité telle qu'elle est repérée par les données fiscales et donc qui permet d'analyser la part des très hauts revenus dans le revenu total avant impôt, avant transfert, donc le revenu du marché. Mais dans ce qu'on constate sur cette inégalité des revenus du marché avant toute redistribution, c'est que cette fois-ci, on a vraiment, dans tous ces pays avancés, un trend qui est relativement, qui est assez positif, qui est assez ascendant. Tout en haut, vous avez encore une fois les États-Unis avec le trend très similaire à celui qu'on avait vu auparavant. En bleu, juste en dessous, vous avez le Royaume-Uni avec une forte chute qui a lieu au moment de la crise de 2008. Et puis dans les autres pays, on voit que l'évolution est beaucoup plus douce. Mais elle est tout de même ascendante. On constate aussi que l'évolution est généralement beaucoup plus marquée durant les années 90 et le début des années 2000 qu'à partir de 2005. Donc là aussi, on a cette fois-ci quelque chose qui correspond plus à la vision d'une inégalité tout le temps en train d'augmenter. La possibilité que ces courbes soient cohérentes avec celles que j'ai présentées auparavant, c'est que, d'une part, la redistribution peut faire beaucoup de choses, et elle n'est pas du tout prise en compte ici. Et puis, d'autre part, le fait que ces courbes ne corrigent absolument pas pour la taille de la famille, ne prennent absolument pas en compte les besoins des ménages, donc elles ne sont pas vraiment complètement comparables. Mais il n'est pas du tout aberrant d'avoir d'un côté des courbes qui vont dans une direction, qui ont une certaine pente, et de l'autre qui ont une autre pente ou qui sont complètement plates. Il y a un exemple qui est tout à fait extraordinaire qui n'est pas ici, qui est l'exemple du Danemark. Donc, au Danemark, la part du 1% le plus riche dans le revenu total est absolument plat sur toute cette période, complètement plat. Et on a vu tout à l'heure la courbe sur les revenus disponibles qui était complètement croissante. Donc ce qui semble indiquer que ce qui se passe au Danemark, c'est essentiellement la politique de redistribution qui devient de plus en plus faible dans sa fonction de redistribution. Il y a d'autres dimensions de l'inégalité. J'en montre une. Qui a son importance au niveau macroéconomique. Un phénomène que l'on observe cette fois-ci dans beaucoup, beaucoup de pays, là il s'agit d'un échantillon de 59 pays, c'est une modification de la répartition du revenu national, donc on est au niveau maintenant macroéconomique, entre les deux grands facteurs de production, disons le travail et la propriété ou le capital. Et ici ce que vous avez, c'est la variation de la part du travail, c'est-à-dire les salaires et tout le coût du travail, donc ça comprend les salaires, mais aussi les charges sociales sur les salaires. Donc c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée totale de l'économie. Et vous rendez compte que dans cet échantillon de pays, donc ça correspond, pardon, j'aurais dû indiquer ça sur ce graphique, à la période 80-2010, on voit que, et les chiffres qui sont là sont la variation de cette part pour 10 ans. Donc, sur 30 ans, il faut multiplier les chiffres qui sont là par 3 et on obtient des chiffres très importants. En rouge, on a le G7, les pays du G7, plus la Chine, qui est complètement à gauche. Et on constate effectivement qu'on a une diminution relativement forte de la part du travail dans le revenu national. Et donc on dit, à partir du moment où le complément au travail, c'est les revenus de la propriété, sachant que les revenus de la propriété sont généralement biaisés vers les hauts revenus, donc on dit là, il y a une source d'augmentation des inégalités, et ça, c'est à peu près cohérent avec le graphique qu'on a montré précédemment, et c'est un phénomène qui est relativement fort, et on reviendra sur ce point là-dessus par la suite. Le dernier graphique, mais là, je n'avais pas de référence facile là, ce serait de regarder l'évolution de l'inégalité des salaires. Encore une fois, l'inégalité des salaires peut évoluer de façon tout à fait différente à l'inégalité des revenus des ménages. Simplement parce que la participation des différents membres d'un ménage à la force de travail peut changer. En particulier, un grand phénomène a été l'augmentation de la participation féminine. Et ça peut changer la distribution entre les ménages, selon en plus le degré d'homogénéité des niveaux de revenus, des niveaux de salaire des gens qui sont en couple. Ceci est une évolution qu'on aurait pu regarder. L'évolution est beaucoup moins forte. Dans la plupart des pays, on a quelque chose qui est relativement stable, sauf encore une fois aux États-Unis où on voit, et en Allemagne d'ailleurs, où on voit une augmentation des inégalités vers le haut de la distribution, relativement forte. Donc voilà pour le constat sur, les inégalités, dans le monde, dans différents pays. Et je vais terminer en prenant un autre point de vue complètement différent, qui est le monde dans son ensemble. Et là, l'idée, c'est de regarder l'évolution de l'inégalité dans le monde en considérant chaque citoyen du monde. Donc, en considérant que le monde est constitué de 1 milliard et quelques de Chinois, 1 milliard et quelques d'Indiens, aussi de, je ne sais plus combien ils sont, 100 000 ou 150 000 Luxembourgeois. Évidemment, les Luxembourgeois, même s'ils sont très riches, pèsent extrêmement peu dans le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'évolution de l'inégalité de niveau de vie encore au niveau mondial? Ça, c'est quelque chose qui est pris d'un travail ancien que j'avais fait avec un historien économiste, Christian Morisson, dans lequel on avait essayé de reconstituer l'évolution historique de la distribution mondiale des revenus. Alors évidemment, c'était un exercice relativement héroïque, puisque en 1820, les pays qui existaient à l'époque n'étaient pas du tout les pays qui existent aujourd'hui. Donc il a fallu faire pas mal d'acrobaties pour essayer de trouver quelque chose qui était raisonnable. Mais on a fait aussi pas mal d'analyses de sensibilité à différentes hypothèses et les résultats qui sont là sont assez robuste. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis le début de la révolution industrielle, il y a une augmentation des inégalités. La courbe rouge, c'est le coefficient de Gini pour l'ensemble du monde. On voit qu'il y a une augmentation des inégalités très nette et très forte, avec un plafonnement qui arrive vers les années 90. Et on peut maintenant regarder ce qui se passe sur la période récente. Alors sur la période récente, on n'est plus contraint par la disponibilité de données historiques, donc on peut travailler avec un très grand nombre de pays et des bien meilleures données, ce qui fait qu'il y a une discontinuité dans les estimations qui ont lieu au moment où on utilise des données modernes. Et donc les deux données en 1990 ne sont pas comparables. Le fait que la nouvelle série, la période récente, soit avec une inégalité beaucoup plus forte, ne signifie pas qu'il y a eu un phénomène économique derrière. C'est simplement les estimations qui sont modifiées. En particulier, dans la période historique, quand on parle de l'Afrique, on dit, ben voilà, il y a cette partie de l'Afrique dans laquelle il y a 10 pays, l'Afrique de l'Ouest. Bon, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, c'est une dizaine de pays. Donc on peut regarder les variations, les inégalités qu'il y a à l'intérieur de ces 10 pays. À l'époque, dans les données historiques, on considérait que c'était un seul unique pays. Uniquement ça montre qu'il doit y avoir une augmentation de l'inégalité. Mais le point important, il n'est pas là. Le point important est qu'on observe ici un changement radical dans l'évolution des inégalités. Les inégalités qui ont cru pendant pratiquement 2 siècles, soudainement se mettent à décroître, et non seulement décroître, mais décroître de façon accélérée. Hein, vous voyez que si vous prenez la courbe en rouge, vous voyez qu'en l'espace de... alors, elle s'arrête en 2010. Normalement, j'aurais dû trouver dans mon Dropbox une donnée plus récente. Je ne l'ai pas trouvée. Je crois que 2015 va exactement dans la même direction. Et donc, entre 90 et 2015, sur 25 ans, on a une perte d'inégalité qui correspond à peu près à l'augmentation des inégalités durant le XXe siècle. Donc, en l'espace de 25 ans, on a effacé une inégalité qui s'était construite pendant pratiquement tout un siècle. Donc ce phénomène est vraiment incroyablement fort. Et ce qu'il y a derrière est tout à fait évident. Ce qui est derrière, c'est d'abord la Chine, dans laquelle vous avez 1,5 milliard d'habitants qui, 1,2 ou 1,3 milliard d'habitants qui voient leurs revenus augmenter à une cadence accélérée aux alentours de 7-8% par an depuis pratiquement 1980. Et ça suffit à diminuer l'inégalité dans le monde. Mais même quand on enlève l'effet de la Chine, on a encore un effet d'égalisation relativement important. Donc on a là un phénomène qui va aussi à l'encontre de ce que peuvent penser les gens, qui disent « mais les inégalités dans le monde augmentent sans arrêt ». Quand on pondère les pays par leur population, quand on prend en compte l'inégalité à l'intérieur des pays, on se rend compte que non, l'inégalité diminue, et elle diminue surtout à cause de l'évolution de l'inégalité entre pays. Donc voilà le constat que l'on peut faire des inégalités dans le monde. Et c'est assez intéressant de voir que ce qui se passe au niveau de l'ensemble du monde va dans le sens opposé à ce qui se passe à l'intérieur des pays, ou à ce qu'on croit, en tout cas, voir à l'intérieur des pays. Diminution dans le monde et une augmentation à l'intérieur des pays. Il y a des graphiques dans lesquels on essaie de décomposer l'évolution de l'inégalité dans le monde entre l'inégalité qui est due à la différence entre les revenus moyens entre pays et l'inégalité qui est due au fait que l'inégalité à l'intérieur des pays est en train de bouger. Le gros de l'évolution est due évidemment à l'augmentation de l'inégalité, à la diminution récemment de l'inégalité entre pays. Donc voilà le constat. Ça bouge, et ça bouge d'une certaine façon presque pour la première fois depuis très longtemps. Il y a déjà un certain nombre d'années, un économiste américain avait critiqué les économistes qui s'intéressaient à la distribution des revenus en disant « Mais finalement, s'intéresser à la distribution des revenus à l'inégalité, c'est comme regarder l'herbe pousser. Il se passe rien. En 10 ans, on voit pratiquement rien, donc ce n'est pas vraiment une source de recherche. » Et un petit peu plus tard... un économiste qui était un de mes collègues, un grand ami décédé récemment, un économiste anglais, Tony Atkinson, avait écrit un article fameux dont le titre était « Ramener l'inégalité du froid ». Et il était relativement visionnaire parce qu'effectivement, dans les années qui ont suivi, soudainement, l'inégalité est redevenue un thème extraordinairement important en économie, en sociologie, un peu partout dans les sciences sociales. Donc maintenant, laissez-moi dire quelque chose sur quelles sont les sources de variation, quelles sont les forces de changement dans les inégalités. J'ai déjà un peu abordé le sujet, je vais aller vite là-dessus. La première force à laquelle on peut faire référence, c'est, et qui est commune à l'ensemble des pays avancés et en développement, c'est la mondialisation. Et la mondialisation a évidemment été considérée comme une source d'augmentation des inégalités dans les pays avancés, essentiellement la concurrence des pays, notamment asiatiques, dans le domaine industriel, qui déplaçait le travail des ouvriers ou des travailleurs non qualifiés dans les pays développés. Et ça produisait une diminution du salaire relatif des non qualifiés, éventuellement du chômage, et ça contribuait à augmenter les inégalités. Ensuite, ce phénomène s'est étendu en fait à des qualifications moyennes. Aujourd'hui, le fait que on ait ce outsourcing, cette externalisation de l'activité d'un certain nombre de compagnies vers d'autres pays en développement, les fameux centres d'appel qui sont localisés en Afrique du Nord ou les comptables qui fonctionnent en Inde pour des banques qui sont localisées en Europe ou aux États-Unis, c'est quelque chose de devenu complètement courant, mais il est évident que ça met en péril des professions telles que comptables dans les économies avancées. Et on observe effectivement dans ces économies avancées, une sorte de polarisation des occupations avec les occupations du milieu, donc de qualification moyenne, perdant de l'importance au profit d'occupations très qualifiées ou au profit d'occupations peu qualifiées, mais plus du tout dans la production, plutôt sur le service et des services à la personne. Et ça correspond ou ça contribue évidemment à une modification de la distribution des revenus. Dans les économies en développement, le phénomène est un peu différent. Par manque de temps, je n'ai pas regardé. Mais maintenant, dans tous les pays, ce que l'on constate aussi, c'est que l'augmentation du commerce, qui a été fulgurante, en tout cas jusque à la crise de 2008, a en même temps provoqué une inégalité entre compagnies, entre firmes, en particulier entre firmes exportatrices et firmes centrées sur le marché intérieur, avec des gains de productivité et des gains de salaire beaucoup plus importants dans les firmes exportatrices que directement exposées à la concurrence étrangère que dans les firmes qui étaient protégés d'une certaine façon de la concurrence étrangère. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qui, dans la plupart des pays, on constate que ça a contribué à une modification des inégalités. La reconstruction de la chaîne de valeur, avec cet éparpillement géographique de la chaîne de valeur, il est évident que c'est quelque chose qui a d'abord profité aux entreprises, au capital. Et donc, on ne peut pas s'étonner que ce soit le capital qui ait gagné dans l'histoire. Et le graphique que j'ai montré tout à l'heure de la perte de la part du travail correspond bien à cette idée-là. Et puis, il y a le grand phénomène, en plus de la mondialisation, qui est commun aussi à tous les pays, c'est le changement technique. Et le changement technique, c'est le fait qu'un certain nombre d'emplois sont menacés par le changement technique. Le fait que l'externalisation dont j'ai parlé tout à l'heure est devenue possible grâce au web, grâce à Internet et à d'autres innovations de ce type-là. Et le fait aussi que les économies d'échelle sont devenues considérables. Regardez les grandes entreprises, les GAFA et les économies d'échelle qui sont réalisées grâce à l'énorme réseau que détiennent ou qu'entretiennent ces entreprises. Ça, ce sont des choses qui ont été permises par le changement technique. Et certainement, le grand enjeu de la période à venir, dont je parlais au tout début, disant que vous allez voir un monde nouveau et extraordinaire, le grand enjeu, il est évidemment là. Il est dans le fait qu'on va probablement assister à des changements techniques qui vont être profonds et qui vont avoir un impact fort sur nos sociétés. Et une partie de l'impact sera probablement une augmentation ou une poussée d'inégalités à travers probablement le marché du travail. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les politiques nationales ont aussi été présentes. Et la révolution, disons, néolibérale à laquelle on a assisté dans beaucoup de pays, le fait que dans beaucoup de pays, à cause ou sous le prétexte de la mondialisation, on a diminué la progressivité de l'impôt, on a coupé dans l'État-providence, on a dérégulé un certain nombre de marchés, en particulier le marché financier, avec les conséquences que l'on connaît sur les crises. Tout ça, évidemment, a pu contribuer aussi à l'augmentation des inégalités. Ce que j'ai montré avec l'évolution de l'inégalité dans différents pays, c'est que, éventuellement, on a des éléments qui vont dans des sens contraires. On peut dire qu'aux États-Unis, normalement, on pourrait s'attendre à ce que le changement technique et la mondialisation aient le même effet partout. Mais si en même temps cette mondialisation, on a système de redistribution qui est efficace, ce qui serait par exemple le cas de la France, grâce non seulement à la redistribution, mais grâce à des institutions telles que salaire minimum, etc., on peut arriver avec ce système-là à contenir la poussée d'inégalité qui est due à la mondialisation et au changement technique. Éventuellement, ça a d'autres conséquences. Mais on peut arriver à comprendre pourquoi on a ces forces communes qui peuvent contribuer à plus d'inégalités, mais elles débouchent sur effectivement plus ou moins d'inégalités selon le système redistributif qui est en vigueur. Et si en même temps qu'on a ces forces qui poussent vers plus d'inégalités, il y a des réformes qui mettent en danger la progressivité du système de redistribution, alors évidemment, les phénomènes se cumulent, et c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur l'inégalité à l'intérieur des pays. L'inégalité entre pays, l'évolution, j'en ai déjà parlé, est tout à fait évidente. C'est avant tout le phénomène asiatique qui a permis cette diminution des inégalités. Néanmoins, et ça c'est très très important, au début du millénaire, ce qu'on a constaté, c'est que ce n'était pas seulement la Chine qui croissait rapidement, c'était l'ensemble du pays en développement. L'Afrique, qui avait stagné pendant pratiquement les années 80, les années 90, a vu sa croissance s'accélérer de façon importante au début des années 2000. Même chose pour l'Amérique latine. Et le phénomène, il était en même temps, le phénomène est dû à l'effet d'entraînement de la croissance asiatique. Et le fait que la Chine a une demande pour des matières premières considérable, les prix des matières premières ont flambé, et ces pays ont pu effectivement surfer sur l'augmentation des prix des matières premières. Aujourd'hui, la situation n'est pas aussi favorable que ça. Et depuis 2015, en fait, on constate que l'Afrique croît beaucoup moins rapidement et on constate qu'éventuellement, il n'y a plus de rattrapage de cette partie de la population mondiale sur le reste. Autrement dit, comme cette partie de la population mondiale est la plus pauvre, on a un ralentissement considérable de la diminution de la pauvreté. Un mot maintenant sur le coût d'une inégalité excessive. Et je voudrais insister sous ce titre-là, et je dois être rapide, sur deux points. Le premier point est qu'on peut considérer que l'inégalité est quelque chose qui est mauvais en soi pour des raisons parfaitement éthiques. On peut considérer que, à cause de notre morale, ou de valeurs morales qui sont partagées à l'intérieur de sociétés, que trop d'inégalités n'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Et à cause de ça, on peut vouloir lutter contre les inégalités. Très bien. Mais on peut aussi considérer que les inégalités, d'un point de vue beaucoup plus réaliste, beaucoup plus matérialiste d'une certaine façon, on peut dire considérer que les inégalités ont un impact sur le fonctionnement des économies. Et qu'une société trop inégalitaire n'aura pas les mêmes performances économiques qu'une société moins inégalitaire. Et c'est certainement un des thèmes qui a été mis en avant par la recherche économique de ces 20 dernières années, qui a consisté à, d'une part, montrer que beaucoup d'arguments théoriques existent pour montrer que trop d'inégalités peut générer une inefficacité de nos économies, et en même temps montrer empiriquement que, effectivement, il y a une relation entre le taux de croissance d'une économie et son degré d'inégalité. Alors, du point de vue théorique, quels sont les mécanismes ? Les mécanismes, je crois qu'on peut les classer en deux types de mécanismes. Le mécanisme strictement économique consiste à dire une société inégalitaire, c'est une société dans laquelle, finalement, il y a un accès inégal de la population, des individus, des familles, à différents mécanismes, différentes facilités de génération de revenus. Le fait que les gens aient un accès inégal au crédit, à l'éducation de haut niveau, qu'on connaît très bien le problème des recrutements dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment dans une école telle que celle-ci, et l'évolution au cours du temps, on se rend compte que si effectivement des gens ne peuvent pas, pour des raisons strictement économiques, de moyens à la disposition des parents, ne peuvent pas poursuivre des études, il y a des talents qui sont perdus, et donc la société perd une capacité qui existait. Le fait qu'il y ait des inégalités dans l'accès aux soins, ça peut signifier que le capital humain n'est pas entretenu de la meilleure façon. Le fait qu'il y ait une discrimination sur le marché du travail, entre genre, évidemment, mais entre ethnie, entre race, entre statut migratoire, quelque chose d'extraordinairement important dans nos sociétés, fait que, de nouveau, sachant que les gens vont être discriminés sur le marché du travail, l'incitation à faire des efforts, l'incitation à travailler plus, l'incitation à étudier mieux en se disant « mais de toute manière, ce ne sera pas reconnu parce qu'il y a une discrimination à l'égard des gens qui ont ma couleur de peau ou les gens qui ont mon background migratoire » est effectivement quelque chose qui, là aussi, va à l'encontre de l'efficacité des économies. Et puis, trop d'inégalités peut générer des problèmes macroéconomiques importants. On a essayé d'interpréter la crise de la finance en 2008, notamment aux États-Unis, en partie par l'augmentation des inégalités, en disant ces inégalités ont fait que le taux d'épargne a augmenté, puisqu'en transférant des revenus des gens les plus pauvres vers les gens les plus riches, il est évident que la propension à épargner de l'ensemble de la société a augmenté. Et puis, on a trouvé, à cause de ça, les taux d'intérêt ont diminué. Mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, on pouvait augmenter le prêt, notamment le prêt à la construction. Et l'évolution ou l'explosion des subprimes, qui était l'explosion du prêt hypothécaire, plus une évolution dans les techniques bancaires, ont finalement généré la crise de 2008. Donc là aussi, on voit que trop d'inégalités génèrent des déséquilibres qui peuvent se répercuter au niveau macroéconomique et qui peuvent, sous certaines conditions, conduire à des crises. Mais probablement l'effet le plus direct, c'est à travers des tensions sociales, à travers des mouvements sociaux, et éventuellement à travers l'élection ou l'arrivée au pouvoir de régimes populistes qui vont avoir des stratégies économiques qui vont aller à l'encontre de l'efficacité économique. Quand on regarde les décisions prises par l'administration de Trump, quand on regarde les décisions, quand on regarde le Brexit, quand on regarde les premières décisions prises par le gouvernement Bolsonaro, quand on regarde la question italienne, on se rend compte qu'effectivement, il y a toute une série de mesures qui sont au détriment de l'efficacité de ces économies, même si certaines vont dans le sens de diminuer les inégalités. Par exemple, la mesure italienne d'instaurer un revenu minimum garanti qui soit à peu près la même chose que le RSA en France est quelque chose qui va dans la direction de diminuer les inégalités, mais en même temps, d'autres décisions sont prises qui vont à l'encontre de l'efficacité économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, dans le coût, et c'est un petit peu ce que je racontais dans ce livre, La mondialisation de l'inégalité, à un moment donné, de dire, finalement, le problème du populisme, c'est pas le populisme en tant que tel, c'est le fait que les décisions économiques qui seront prises vont à l'opposé de l'efficacité économique. Si vous regardez, par exemple, les mesures de Trump en termes de commerce international, qui vont contre la mondialisation, qui essaye de revenir en arrière sur les acquis de la mondialisation, il est dans beaucoup de domaines évident que ça va à l'encontre de l'intérêt économique américain, même si effectivement, politiquement, c'est quelque chose qui peut permettre à la présidence Trump d'améliorer sa popularité. Je vais terminer avec quelques mots sur les politiques correctrices en essayant d'insister sur une distinction qui me paraît fondamentale et qui n'est pas toujours perçue de cette façon dans l'opinion publique. La distinction que je voudrais faire dans les politiques correctrices, c'est de dire finalement, on peut corriger les inégalités en prenant le problème de deux façons. Premièrement, on peut prendre le problème en amont. En disant finalement, qu'est-ce qui génère des inégalités ? Ce qui génère des inégalités, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un accès inégal à toute une série de possibilités qui vont permettre aux gens plus tard d'avoir une capacité de génération de revenus qui soit satisfaisante. S'il y a de l'inégalité à ce niveau-là, ce qu'on appelle en France, en français plus exactement, l'inégalité des chances. Si on arrive à diminuer l'inégalité des chances, on va en même temps diminuer l'inégalité des résultats et on va en même temps améliorer l'efficacité de l'économie. Et c'est donc un premier ensemble de politiques qui consiste à dire intervenons en amont pour diminuer les inégalités qu'on va observer en aval. Et donc ça signifie des politiques éducatives fortes, ça signifie des politiques dans les services publics fortes, ça signifie réguler un certain nombre de marchés parce qu'ils génèrent des inégalités qui vont contre l'efficacité économique, c'est-à-dire empêcher des échecs de marché tels qu'on les appelle. Et tout ça va dans cette direction de politique fondamentale de lutte contre les inégalités. L'autre bout de la route, c'est en aval. Et de dire maintenant, lutter contre les inégalités, c'est redistribuer. Il y a trop d'inégalités, on taxe les gens qui ont un revenu très élevé. Et puis, on redistribue le produit de la taxe d'une façon ou d'une autre à des gens qui ont des revenus relativement faibles. Et dans le débat public commun, ce type de redistribution, ce type de politique, c'est effectivement ce qui est mis en avant. On a tous entendu parler du problème de la justice fiscale en France qui est mise en avant par les Gilets jaunes. Bon, c'est typiquement une intervention en aval qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui corrige les symptômes sans nécessairement corriger les causes de l'inégalité. Alors maintenant, ça rend les choses encore un peu plus compliquées. Ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées, c'est le fait que les deux types de politiques sont liés. Évidemment, si je génère trop d'inégalités en aval, ces inégalités en aval vont générer des inégalités en amont, à travers le phénomène intergénérationnel. Et donc, quelque part, on ne peut pas dire il faut intervenir en aval mais pas en amont, ou il faut intervenir en amont et pas en aval. Les deux sont liés, mais il est important de voir que lutter contre les inégalités, ça n'est pas lutter uniquement sur une partie de la chaîne, c'est lutter sur, pour contre les inégalités sur l'ensemble de cette chaîne causale. Et ça, c'est quelque chose que on ne voit pas ou que qui n'apparaît pas très nettement dans le débat sur les inégalités. Par exemple, parler de du problème de la fiscalité sur les héritages, c'est quelque chose d'extraordinairement important qui appartient plutôt à l'amont que à l'aval, et peut-être que c'est un domaine de réforme économique qui est plus important que réformer la fiscalité sur le revenu. Ces choses-là, ce débat-là, on doit l'avoir, et on doit l'avoir avec en tête non seulement améliorer la distribution, améliorer l'équité, mais en même temps en se disant on veut aussi améliorer l'efficacité économique, le fonctionnement économique. Et étant donné les changements techniques auxquels on peut s'attendre, je crois que c'est effectivement une réflexion qui doit avoir lieu. Je vais terminer sur la question de quelles inégalités. J'ai déjà abordé la question en parlant d'aval et d'amont. J'ai déjà montré que les inégalités, telles qu'elles sont décrites par les chiffres que j'ai montrés, ne correspondent pas nécessairement à ce qui est important. Et de façon peut-être plus critique, ne correspondent pas nécessairement aux inégalités telles qu'elles sont ressenties par les populations. Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans les chiffres que j'ai montrés. Et la France est certainement le cas le plus typique. Comment se fait-il que en France, on ait une évolution des inégalités qui soit aussi plate, alors que quand on interroge la population, et il y a beaucoup de sondages de ce type-là, et qu'on pose aux gens la question « Qu'est-ce qui s'est passé en France sur les 10 dernières années ? Est-ce que vous pensez que l'inégalité a augmenté ?» On a 80% des gens qui disent « Mais oui, évidemment qu'elle a augmenté. » Et qu'elle a augmenté violemment. Il y a 20 ans, c'était pas vrai. C'est un phénomène qui tend à s'amplifier sur les dernières années. Et donc là, il y a une question qu'on peut se poser, qui est, est-ce que nos chiffres, nos coefficients de Gini, nos revenus disponibles par tête, etc., est-ce que c'est ça la bonne chose ? Est-ce que finalement, l'opinion publique n'a pas en tête une autre ou d'autres définitions de l'inégalité ? Par exemple, la vulnérabilité à la conjoncture économique. Je vis dans une petite ville qui dépend d'une ou deux grosses entreprises. Je sais que ces entreprises battent de l'aile et qu'elles peuvent fermer du jour au lendemain. Et je vois bien que si c'est le cas, cette petite ville va entrer dans une récession qui va m'entraîner. Éventuellement, je suis propriétaire de ma maison, mais si ça se passe, le prix de ma maison va diminuer. Je ne pourrai pas me reloger ailleurs parce que le différentiel de prix sera trop important. Et en plus, chaque fois que je dois bouger, je dois déménager, je dois payer 8 ou 10% de frais de transaction auprès des notaires, etc. Donc, cette vulnérabilité, c'est peut-être quelque chose qui est crucial dans la façon dont la population ressent les inégalités et ce qui transparaît dans la tension sociale, ce qui transparaît dans les décisions politiques, dans des processus électoraux. En même temps, ce sont des éléments qui sont importants du point de vue de l'économie. Effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que le monde idéal ou l'économie idéale est une économie dans laquelle on a quelques grandes métropoles et puis le reste du territoire est complètement négligé. Est-ce que c'est ça vraiment l'efficacité économique ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas intérêt à avoir une densité beaucoup plus forte et beaucoup plus uniforme de l'activité économique dans le pays ? Ça, ce sont des questions importantes et importantes aujourd'hui et importantes pour l'avenir. Et c'est dans ce sens-là que Je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur ce que l'on entend par inégalité, d'un point de vue strictement de toutes les dimensions de l'inégalité, telles qu'on peut les percevoir, telles qu'on peut les concevoir par l'économie, mais aussi les différentes dimensions de l'inégalité telles qu'elles sont perçues par la population. Je termine par un exemple qui me semble très frappant, c'est l'exemple américain. Quand vous posez aux États-Unis la question, dans la population américaine, vous posez la question, est-ce que vous pensez que l'inégalité est trop élevée aux États-Unis ? La réponse est non. Il y a une majorité de gens qui vont répondre non, l'inégalité est très bien. Est-ce que vous pensez que l'inégalité a augmenté dans les 10 dernières années ? La réponse va être non. Et effectivement, cette inégalité dont on parle là n'est pas l'inégalité qui importe aux gens. Les gens vont beaucoup plus insister sur le fait qu'il y a des Zuckerberg, il y a des Jeff Bezos, il y a des Bill Gates. Et ça montre que il y a vraiment de l'égalité des opportunités. Et ça suffit. Donc c'est l'inégalité en... Il n'y a pas d'inégalité, selon eux, en amont. Il y a l'inégalité en aval, mais bon, c'est le résultat des efforts des gens, de la prise de risque, etc. Et je trouve que cet exemple est très très frappant, parce que ça montre que il y a différentes conceptions là. Et maintenant, quand on essaie d'analyser le phénomène Trump, et on se dit, bon, mais ces inégalités ont dû jouer un rôle. Et je lisais il y a quelques jours un article du Washington Post à propos de Bernie Sanders et de la campagne qui est en train d'entamer Bernie Sanders et les gens qui le soutiennent et qui parlent d'inégalités, etc. Mais en fait, quand on regarde l'élection de Trump, ça n'est pas la partie basse de la distribution qui a voté contre le système. La partie basse de la distribution, c'est souvent des migrants. C'est souvent des hispaniques, peut-être qui sont installés depuis là depuis très longtemps. La partie qui a voté contre Trump ou qui a changé d'opinion, les swing votes, comme on les appelle, ce sont plutôt la population blanche, peu éduquée et vivant dans des zones non métropolitaines. Population qui a été directement affectée par la désindustrialisation qui a eu lieu dans ces villes d'importance moyenne et qui a profondément abîmé le tissu économique et social de cette partie. Et très intéressant, il y a cette étude de deux économistes, Angus Deaton et Anne Case, qui analyse ce phénomène tout à fait extraordinaire, qui est la diminution de l'espérance de vie des hommes non blancs, non éduqués, entre 35 et 55 ans. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui est inimaginable. Et quand vous comparez cette population-là aux Noirs du même âge, aux Hispaniques du même âge, aux Asiatiques du même âge, on observe que l'espérance de vie augmente. Mais là, il y a un phénomène majeur qui correspond, selon eux, à cette espèce de déclassement qui a eu lieu dans cette population blanche. Et si c'est le cas, on se rend compte que c'est une inégalité qui apparaît quelque part, mais c'est une inégalité horizontale entre une partie de la population et une autre partie de la population. Et c'est dans ce sens-là que... je vais m'arrêter en disant que le sujet est évidemment passionnant. Je crois qu'il est absolument central. On est bizarrement en train de redécouvrir, peut-être de découvrir toute une partie de ce phénomène de l'inégalité. Je m'arrête là, j'ai été trop long. Toutes mes excuses.
Bonjour. Alors, vous avez évoqué le rôle des politiques publiques et ça m'a fait penser à l'indexation des salaires sur l'inflation. En France, c'est Mitterrand qui a abrogé la loi en 83. Comment, pour vous, quels sont les facteurs qui peuvent amener un gouvernement social-démocrate à accepter des mesures qui ne vont pas dans le sens de la réduction des inégalités ?
Alors, est-ce que l'indexation des salaires sur l'inflation allait dans la direction d'une réduction des inégalités ? J'en suis pas convaincu. La raison pour laquelle on a mis fin à l'inflation, à l'indexation, c'est le fait qu'on était dans une spirale inflationniste. Qu'est-ce qui se passait ? Il se passait qu'on augmentait les salaires parce que l'inflation, parce que les prix avaient augmenté, mais les entreprises répercutaient l'augmentation des coûts salariaux sur leurs prix de vente. Et donc, l'inflation augmentait et il fallait augmenter les salaires. Donc, on était pris dans une spirale qui faisait que, effectivement, et avec une inflation très forte, hein, on est en 83, l'inflation est à deux chiffres. Et dans ces conditions-là, on était une inflation qui s'accélérait. Donc, la mesure est complètement macroéconomique. Il fallait donner un coup d'arrêt à cette espèce de fuite en avant et de cette spirale inflationniste. Maintenant, une fois que cette mesure a été prise, l'indexation, elle est implicite dans le cas français. Hein ? On a, quand vous regardez la politique d'indexation automatique du SMIC, le SMIC automatiquement augmente comme l'inflation. En plus de ça, il augmente comme la moitié de l'augmentation du salaire réel moyen en France. Donc vous avez dans la formule, le mécanisme d'indexation du SMIC, vous avez l'indexation des salaires. Et dans la mesure où la plupart de l'augmentation, où les salaires suivent en proportion l'augmentation du SMIC, en tout cas pour une très très large gamme ou intervalle de salaire, on peut dire qu'il y a effectivement une indexation qui reste là. Et de ce point de vue-là, la France est d'ailleurs un pays qui fait exception de ce point de vue. Mais la décision mitterrandienne est vraiment une décision macroéconomique pour stabiliser une économie qui était vraiment dans le désordre le plus absolu.
Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le revenu du capital il semblait plutôt augmenter les dernières années. Du coup, une partie de la solution, ce ne serait pas de justement réorienter ces revenus du capital vers des gens plus modestes. Et par exemple, qu'est-ce que vous pensez de mener des politiques afin d'introduire dans le capital des salariés, par exemple, dans les entreprises ?
Bon, enfin, les deux points que vous signalez sont assez différents. Dans un cas, vous prenez les revenus du capital et vous dites, bon, on va vous taxer d'une façon ou d'une autre et puis on va redistribuer le produit à d'autres parties de la population. Ça a eu lieu, hein, quand on a généralisé la CSG en France, quand on a généralisé la CSG à l'ensemble des revenus, les revenus du capital ont soudainement été imposés à un niveau beaucoup plus important. Donc, ce genre de politique a déjà été pratiqué. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Peut-être. Maintenant, on a ce problème que j'aurais pu signaler, que je n'ai pas eu le temps de signaler, qui est, dans toutes ces politiques fiscales ou ces politiques de redistribution, une des grandes contraintes qui vient de la mondialisation, c'est la mobilité des entreprises, c'est la mobilité du capital. Et dans certains cas, bon, j'y crois pas nécessairement trop, mais la mobilité des personnes. Et dans ces conditions-là, on a des limites sur ce que l'on peut faire. Parce qu'on voit bien que si on taxe trop le profit des sociétés, on risque fort de voir les sociétés migrer vers d'autres pays dans lesquels la fiscalité sera plus favorable. En ce moment, on est en train d'assister, en tout cas en Europe, à une sorte de convergence de la fiscalité sur le profit des entreprises, ce qui ne signifie pas que la fiscalité sur le capital soit la même. Mais la deuxième partie de votre question est de nature différente. Mais attendez, soudainement, j'ai oublié quelle était la deuxième...
C'était mettre des travailleurs au capital des entreprises.
Enfin, oui, absolument. Donc là, vous pouvez dire que c'est un problème de gouvernance qui se passe. Est-ce que la gouvernance des entreprises, et en particulier le fait que la plupart des actionnaires sont des détenteurs de capitaux et que les salariés soient souvent peu représentés dans les conseils d'administration, c'est véritablement un problème. Dans la mesure où, oui, effectivement, il y a l'intérêt d'un des facteurs essentiels de production qui est mal représenté dans les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. La France, de ce point de vue-là, n'est pas un pays exemplaire. L'Allemagne, à côté de nous, a effectivement, par loi, l'obligation d'avoir des représentants du personnel dans les conseils d'administration. Et ces représentants ont un rôle véritable, non pas un rôle de mannequin, ils ont un rôle véritable.
Merci, bonjour. Vous avez appréhendé les choses essentiellement en termes de flux, donc d'inégalité de revenus et pas de patrimoine. Or, on a tous en tête les rapports d'Oxfam, donc je ne sais pas le sérieux, mais qui montre la concentration de la moitié de la richesse aux mains de quelques personnes, ce qui me semble avec plutôt de manière croissante, puisqu'il me semble qu'il y a quelques années, c'était plutôt 70 personnes et la dernière fois, c'était 8, qui avaient autant de richesse que la moitié la plus pauvre. Donc ça me paraît plutôt être une croissance des inégalités de patrimoine. Or, on sait aujourd'hui que le patrimoine représente une part croissante de revenus, que ça avait baissé et puis ça a remonté depuis les années 80. Donc voilà, est-ce que quand on met en regard des inégalités en termes de patrimoine, on aboutit à une carte un peu différente de la situation ?
Non, alors vous avez raison de remarquer que les inégalités de patrimoine sont très, très supérieures aux inégalités de revenus. D'une certaine façon, heureusement, dans la mesure où si l'égalité des revenus était celle des patrimoines, ça signifierait que, grosso modo, on aurait 50% de la population qui aurait un revenu zéro. Donc, la différence est colossale. La raison pour laquelle je trouve que les statistiques et la publicité que Oxfam fait à ce genre de chiffres, c'est que bon, ça signifie pas grand chose. On est en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur du c'est même pas le 1%, on est en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur du 0,0001% des patrimoines mondiaux. Bon, à l'intérieur de ce tout petit groupe, qu'il y ait un petit peu plus de concentration, qu'est-ce qui se passe? Et quel est le résultat de ça pour l'ensemble de l'économie d'un pays ou l'économie mondiale? Je pense que la distribution à l'intérieur de cette minorité n'est pas quelque chose de très important. Sauf dans un cas particulier, si on considère que cette plus grande concentration des patrimoines vient avec une influence politique beaucoup plus grande de la part de ces détenteurs de patrimoine gigantesque. Alors, est-ce que le fait que, soudainement, il y ait plus de concentration dans cette parmi ces milliardaires, est-ce que ça correspond au fait qu'il va y avoir des inflexions de la politique économique et sociale liées à ça? Certains le pensent. Je ne suis pas complètement persuadé de ça, parce que l'autre chose qu'il faut regarder, c'est le fait que les patrimoines dont on parle là sont extrêmement volatiles. Et si demain, vous avez un peu de mouvement sur les marchés des capitaux, après sur les marchés boursiers, vous allez voir tous ces chiffres de concentration patrimoniale qui vont bouger de façon absolument considérable. Donc, c'est pas cette partie-là qui me semble importante. Ce qui est plus important, c'est le fait qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles pratiquement 60-70% de la population n'a pas de patrimoine. Et ça pose encore une autre question qui est, c'est vrai, mais est-ce que c'est raisonnable de comparer des gens qui ont 20 ans ou 25 ans, qui viennent juste de rentrer sur le marché du travail, avec des gens qui en ont 70. quelque part, ne pas avoir de patrimoine à 25 ans n'est pas quelque chose de terrible. Les gens à 25 ans peuvent se dire, quand j'en aurai 50, j'aurai un patrimoine, j'aurai acheté une maison. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème de mesure des inégalités qui n'est pas du tout perçu, et c'est la raison pour laquelle je suis assez critique de ce genre de publication ou de grandes de slogans de la part d'organisations comme Oxfam, parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de signification profonde.
Merci beaucoup, Monsieur Bourguignon.